Alors nous allons commencer cette réunion. Bonjour à tous. Au nom du groupe Profession Santé, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce focus consacré au CAR T-cell. Je remercie les laboratoires Gilead et Novartis qui nous ont apporté leur soutien institutionnel et ont permis l'organisation d'un tel événement. Un événement que nous avions déjà initié l'année dernière. Donc, c'est la deuxième édition. Ce focus est filmé et donc vous retrouverez toutes les tables rondes et les échanges sur le site de nos titres que vous connaissez, le quotidien du médecin notamment, et des articles dans les différentes publications du groupe, c'est-à-dire le quotidien du médecin, le quotidien du pharmacien, décision et stratégie santé, ainsi que le généraliste. Les CAR T-cell sont une révolution, tant médicale qu'organisationnelle. On a pu observer des réponses thérapeutiques et des taux de rémission spectaculaires chez des patients en impasse thérapeutique présentant des cancers hématologiques réfractaires aux thérapeutiques standards. Deux molécules ont obtenu en 2018 une autorisation sur le marché en oncohématologie. Alors, je ne vais pas m'engager à dire les DCI de ces médicaments tant elles sont compliquées. Je vais citer ce qu'on fait rarement, mais je vais quand même les citer, les noms commerciaux de ces molécules. Kymria pour les laboratoires Novartis et Yescarta des laboratoires Gilead qui ont ouvert la voie à cette thérapie génique. Leur évaluation médicale et scientifique se poursuit et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avec de nombreux essais dans des tumeurs solides, et nous verrons avec le docteur Depille ce qu'il en est, avec d'autres médications associées, enfin d'autres médicaments plutôt, associés aux CAR T-cell, tels que les thérapies ciblées, et nous verrons au cours d'une table ronde numéro 3 d'ailleurs ce qu'il en est, ou encore les anticorps bispécifiques. Les CAR T-cell sont en ordre de marche, c'est notre titre de ce focus d'aujourd'hui. C'est la deuxième édition que le groupe Profession Santé organise sur une telle thématique. Cette deuxième édition a pour ambition de revenir sur les études scientifiques, d'avoir une analyse des données en vraie vie, d'appréhender leur évolution réglementaire, de faire un point sur l'accès à cette thérapie génique et cellulaire. Ça, je me ferai... moi, je n'arrive pas à dire seulement thérapie génique, puisque pour moi, il y a des lymphocytes, c'est des cellules, donc je dis aussi cellulaire, et reparler des impacts économiques et organisationnels. Pour nous accompagner pour cette première table ronde, M. Jérôme Larguero, qui est hématologue à l'hôpital Saint-Louis, va ouvrir ce focus en nous présentant en fait, l'organisation des établissements de santé, qu'est-ce que ça implique donc pour un centre autorisé à délivrer ces thérapies. Et donc, on va ouvrir ce focus. Merci beaucoup et merci à tous d'être là ce matin.
Donc, j'ai effectivement la lourde tâche de commencer cette journée, de vous faire, j'espère, partager l'enthousiasme qui a été le nôtre au moment où nous avons commencé cette magnifique histoire, et puis quand même de faire un tout petit peu le poil à gratter de ce que représente l'organisation de la mise en place d'une telle histoire dans les différents établissements de santé. Je prendrai évidemment plutôt l'exemple du nôtre, mais enfin je ne doute pas que d'aucuns partagent les mêmes questionnements et éventuellement les mêmes problématiques que celles que nous avons à l'hôpital Saint-Louis et à l'hôpital Robert-Debré, puisque nous travaillons de concert depuis le début de notre aventure sur les CAR T-cell. Allez, allons-y. Donc, next slide, merci. Donc, revenir déjà d'une part sur les acteurs qu'implique l'organisation. Alors, c'est un modèle 1930, celui-ci. C'est bon. Merci beaucoup. Donc, un premier point qui est fondamental dans l'organisation de cette activité, ce sont les acteurs. Les acteurs, vous voyez, ils sont très nombreux et tout ceci va impliquer une coordination extrêmement fine entre, d'une part, tous les acteurs hospitaliers, et j'ai volontairement mis service clinique au pluriel, puisque on part du principe, et c'est bien légitime, que qui dit traitement par carticelle dit traitement dans un service clinique aujourd'hui d'hémato-oncologie, mais qui implique également les réanimateurs, qui implique également les services de neurologie. Donc il y a un certain nombre de services cliniques qui sont impliqués dans l'activité. Le service d'aphérèse, on verra pourquoi, l'unité de thérapie cellulaire, la pharmacie, qui a un rôle absolument majeur dans l'organisation de l'activité, et puis un certain nombre de laboratoires qu'on a aussi parfois tendance à oublier un petit peu, en particulier les laboratoires d'immunologie avec lesquels on met en place le suivi et l'immunomonitoring des patients greffés par carticelle. Et tout ceci en lien, aujourd'hui en France, avec un certain nombre d'industriels de la pharmacie que vous avez évoqués, qui eux-mêmes peuvent avoir un lien avec ce qu'on peut appeler des plateformes de thérapie cellulaire et génique, en tout cas les structures qui vont être chargées de la fabrication de ces carticelles. Alors, les carticelles, ce sont des médicaments. Il ne faut pas l'oublier, et on verra que ce terme de médicament est crucial, puisqu'il va impliquer une organisation tout à fait particulière. Ce sont des médicaments de la classe qu'on appelle les médicaments de thérapie innovante, et dans médicaments de thérapie innovante, certes, thérapie innovante est important, mais enfin, le terme qu'il faut retenir, c'est médicament. C'est une nouvelle classe de médicaments, mais ce n'est pas parce que c'est une nouvelle classe que ce ne sont pas pour autant, et il reste, des médicaments. Et on va voir que cet aspect réglementaire est consubstantiel finalement de l'organisation qu'on est obligé de mettre autour de la prise en charge de ces patients. Il existe quatre catégories de médicaments de thérapie innovante, que sont la thérapie cellulaire, la thérapie génique, l'ingénierie tissulaire, et ce qu'on appelle les médicaments combinés de thérapie innovante. Alors, pour répondre à votre interrogation, oui, les carticelles font partie de médicaments de thérapie innovante, dits de thérapie génique, même si, effectivement, on part quand même d'un matériel cellulaire. Mais enfin, ils sont considérés comme des médicaments de thérapie génique. Alors, je vous ai représenté ici de façon extrêmement schématique le parcours, non pas du patient, mais le parcours des cellules du patient. Et comment est-ce que tout ça est organisé ? Je vais peut-être essayer de récupérer un pointeur. Ça, mais c'est pas grave. Donc, vous avez ici un patient auquel nous allons prélever les cellules, ce qu'on appelle les cellules mononucléées. Et ce prélèvement est réalisé par une technique qu'on appelle l'aphérèse. Ce prélèvement d'aphérèse, donc les cellules initiales, ne sont pas à ce stade des médicaments, mais représentent ou vont représenter ce qu'on appelle la matière première de départ, avec un statut réglementaire finalement un petit peu particulier au sens où on n'est pas encore là dans le statut réglementaire du médicament. Ces cellules initialement prélevées sont ensuite envoyées vers les différents collègues des industries pharmaceutiques. Et lorsque le médicament est produit, ou lorsque le carticelle est finalement produit, il devient à ce moment-là un médicament, comme on l'a vu, un médicament de thérapie innovante. Donc on se retrouve dans une boucle de statuts réglementaires différents entre le moment où le patient est prélevé et le moment où le patient va recevoir son traitement par carticelle. Là encore, ces différents aspects participent de l'organisation à mettre en place. Alors, je voulais schématiser, je vais essayer de passer le moins de temps possible sur cette diapo, mais je voulais schématiser ici l'organisation qui est de facto et au regard de tout ce qu'on vient de voir, mise en place entre l'hôpital Saint-Louis, enfin pour les patients de l'hôpital Saint-Louis et ou pour les patients de l'hôpital Robert-Debré. Alors, c'est notre organisation, on peut bien entendu en trouver d'autres, mais vous verrez quel est le message que j'essaie de faire passer au travers de cette diapo. Donc tout débute par l'inclusion ou l'éligibilité d'un patient dans le service clinique. Et dès ce stade, l'important à voir ici, c'est la collaboration entre le service clinique, l'industriel et tous les autres services de l'hôpital, la phérèse, la thérapie cellulaire et la pharmacie. Et il est important de comprendre, je pense, et de bien garder à l'esprit que tous ces acteurs sont impliqués dès le départ. Ce n'est pas une succession d'implications d'acteurs, c'est une organisation qui doit être mise en place de façon à ce que dès que le patient est vu pour la première fois, toutes les équipes soient informées de ce qui va se passer et de ce qu'on va proposer aux patients. Alors, avec une petite notion que j'ai appelée logiciel, qui n'a l'air de rien comme ça, mais ça c'est peut-être plus une private joke, qui est que, évidemment, tous nos amis industriels ont leur propre logiciel. Et donc, quand vous travaillez avec un industriel, vous avez un logiciel, avec deux industriels, deux logiciels, avec trois industriels, trois logiciels, avec quatre industriels, ah bah tiens, un autre logiciel. Et donc, vous êtes obligé, évidemment, de vous former et de vous valider à tous ces petits logiciels. Inutile de vous dire que pour les grands spécialistes de l'informatique comme moi, ce n'est pas toujours facile à gérer. Alors, donc le prélèvement du patient va être réalisé par aphérèse, transféré dans une unité de thérapie cellulaire qui a à la fois un rôle de contrôle et de qualification du prélèvement qui a été réalisé, c'est ce qu'on appelle les contrôles de qualité afférents à ce qui a été prélevé, et un rôle d'envoi du prélèvement réalisé vers l'industriel qui va être chargé de la fabrication du médicament, dans un contexte réglementaire dans lequel je ne rentre pas, mais enfin qui est aussi important ici, puisqu'on peut être amené à réaliser ce qu'on appelle des exportations de cellules, puisque les lieux de fabrication du CAR-T en tant que tel sont généralement, ou en tout cas encore aujourd'hui dans la quasi-totalité des cas, hors le territoire national. Donc les cellules, cette matière première cellulaire est envoyée, fabriquée, enfin utilisée pour la fabrication du CAR-T-cell, et on arrive au moment où l'industriel va nous prévenir que le médicament est prêt à être renvoyé sur le site hospitalier. Alors vous avez vu qu'à partir de ce moment-là, je parle de médicament. Qui dit médicament, à tout le moins en France, dit prise en charge par le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé dans lequel le CAR-T est renvoyé. Avec cette petite pointe supplémentaire, qui est que vous voyez sur la photo de droite que ce n'est pas, on va dire, un médicament classique qui est renvoyé sous forme de comprimé dans une boîte, mais un médicament qui est renvoyé sous forme cryopréservée, à des températures entre, on va dire, moins 150 et moins 190 degrés. Et ce médicament cryopréservé doit être conservé dans cet état avant d'être greffé au patient receveur. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans un contexte dans lequel la quasi-totalité des pharmacies, des hôpitaux en France ne sont pas équipés pour pouvoir stocker ce type de médicaments. Et il y a donc là une organisation à mettre en place entre l'unité de thérapie cellulaire qui, elle, dispose des compétences et des structures pour la conservation de ce médicament, et la pharmacie qui, elle, en a la responsabilité. Et donc, nous avons mis en place des contrats de collaboration entre les pharmacies des hôpitaux et l'unité de thérapie cellulaire de Saint-Louis, qui a donc la responsabilité du stockage de ce CAR-T-cell, mais qui n'en a pas la responsabilité ni de la réception, ni, on va le voir après, de la décongélation pour greffe. Et donc, lorsque nous recevons le feu vert du service clinique pour la greffe, le médicament est décongelé en thérapie cellulaire, à nouveau sous la responsabilité des pharmaciens, puisque je vous rappelle que c'est un médicament, donc pharmacien de la PUI. Alors, comment est-ce qu'on a organisé ça à Saint-Louis ? Lorsque le médicament arrive dans l'unité de thérapie cellulaire, on prévient la pharmacie, deux pharmaciens de la PUI viennent en thérapie cellulaire réceptionner le CAR-T-cell. Le CAR-T-cell est stocké dans les cuves de la zone de cryobiologie de l'unité de thérapie cellulaire. Et lorsque le CAR-T doit être décongelé, on fait revenir deux pharmaciens de la PUI qui assurent la décongélation en thérapie cellulaire, puis l'envoient dans le service clinique. Donc vous voyez qu'il y a un lien extrêmement fin qui est fait avec nos collègues de la pharmacie. Alors ça, c'est pour les patients greffés à Saint-Louis. Pour les patients pédiatriques de l'hôpital Robert-Debré, le chemin est encore un petit peu différent. Pourquoi il est un petit peu différent ? Parce que lorsque vous avez décongelé votre CAR-T-cell, il faut qu'il soit injecté dans les 30 minutes après la décongélation. Le trajet entre Saint-Louis et Robert-Debré étant équivalent à peu près à 30 minutes, vous imaginez qu'on ne peut pas décongeler à Saint-Louis pour, dans les 30 minutes, greffer un petit patient à Robert Debré. Donc l'organisation est un petit peu différente. Dans ces cas-là, les pharmaciens de Saint-Louis reviennent en thérapie cellulaire, préparent l'envoi du CAR-T-cell à l'état cryopréservé pour un envoi à Robert Debré. Le CAR-T-cell arrive cryopréservé à Robert Debré dans le service clinique dans lequel il est décongelé en présence d'un pharmacien de Robert Debré cette fois-ci. Donc vous voyez que tout ça est quand même à mettre en place très en amont et à ne pas se rendre compte le jour de la greffe qu'il fallait mettre tout ça en place avant d'y aller. Alors tout ça s'accompagne d'un certain nombre d'étapes à risque. Je vous en donne ici quelques exemples parce que la liste n'est évidemment pas exhaustive. Mais enfin, à garder bien en tête, en particulier le transport des cellules entre l'aphérèse et l'unité de thérapie cellulaire et la cryopréservation de ces cellules dans l'unité de thérapie cellulaire, puisque dans un certain nombre de cas, la thérapie cellulaire va assurer la cryopréservation et envoyer à l'industriel les cellules cryopréservées. Donc vous vous doutez bien que toutes ces étapes sont des étapes qui peuvent être potentiellement à risque de détérioration de la qualité des cellules initialement prélevées chez le donneur. Et puis l'étape de réception et bien sûr l'étape de décongélation, qui est une étape tout à fait critique et pour laquelle on doit évidemment s'assurer que le médicament qui va être réinjecté au patient suit les recommandations et les spécifications qui ont été données à ce type de médicament. Alors pour vous donner l'exemple des impacts que toute cette organisation a pu avoir à l'hôpital, je vous ai pris ici l'exemple de ce qu'on a vécu lorsqu'on a commencé l'histoire des CAR-T-cells. Donc on est en octobre 2016. Oui, à ce propos, on va en profiter, petit cocorico, puisqu'on fait quand même beaucoup de French bashing dans notre pays. Si je ne dis pas de bêtises, je parle sous votre contrôle. Saint-Louis et Robert Debré ont été les premiers sites en Europe à pouvoir mettre en place les stratégies CAR-T-cells. Youpi, youpi. Bon. Voilà, je ne peux pas non plus vous embêter toute la matinée avec les impacts organisationnels et les choses difficiles et pas profiter un petit peu d'un petit cocorico. Bon, donc on en revient au cocorico de 2016.
Ça fait du bien.
Ça fait du bien. Hein. Cocorico 2016. Donc on est très excité, on est très content. On va rentrer dans l'activité CAR-T. Tout ça est absolument magnifique. On a mis en place l'organisation que je viens de vous montrer. Avec cette structure-là, on a un CAR-T-cell par mois, on va dire. Bon. Deux pharmaciens, je vous l'ai dit, de la pharmacie à usage intérieur. Deux pharmaciens et ou médecins de l'unité de thérapie cellulaire, avec une ou deux techniciennes de l'unité de thérapie cellulaire, dont le rôle est évidemment majeur, puisque je vous ai dit qu'il y avait une étape potentielle de cryopréservation des cellules. Et puis, bien évidemment, on s'était arrangé pour libérer un peu de temps pour ce qui était cette nouvelle activité. Bon, voilà, là, on est très content, on est très excité. Alors, je reste quand même content. Mais aujourd'hui, voilà où on en est. C'est-à-dire qu'on est à plus de 15 CAR-T-cells par mois. On a greffé aujourd'hui, entre Saint-Louis et Robert Debré, selon mes derniers chiffres, à peu près 150 patients. Vous imaginez bien qu'avec tout ce que je viens de vous raconter en termes d'organisation, ben, il faut quand même arriver à gérer tout ça. On a aujourd'hui à minima 4 pharmaciens de la PUI qui sont impliqués dans cette activité. Et en thérapie cellulaire, on a même mis en place finalement une activité identifiée CAR-T-cell, puisque il ne faut peut-être pas oublier qu'aujourd'hui, les CAR-T-cell ne remplacent pas ni les stratégies d'autogreffe, ni les stratégies d'allogreffe pour les patients considérés, et que donc, en thérapie cellulaire, on a toujours autant de manipulations de greffons pour l'autogreffe et pour l'allogreffe, et que l'activité CAR-T-cell est une vraie activité supplémentaire. Donc on a 3 pharmaciens et ou médecins impliqués en thérapie cellulaire, un interne, et on a un interne qui est 100% dédié à l'activité CAR-T-cell, et pour lequel on a voulu un lien très fort avec la pharmacie. Donc il est en gros 50-50 entre la thérapie cellulaire et la pharmacie. Une équipe de 7 à 8 techniciennes, pas à temps plein, mais 7 à 8 techniciennes qui sont capables d'être intégrées dans l'activité CAR-T. Et on a récemment décidé même de dédier une salle blanche de nos zones d'activité d'atmosphère contrôlée à l'activité CAR-T-cell. Donc cette fois-ci, c'est libéré beaucoup, 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 vraiment beaucoup de temps. Ce d'autant que toute cette activité est associée à un certain nombre d'audits. Alors, audits avec des S partout, puisque vous voyez que nous sommes audités lors de la mise en place, nous sommes audités lors de la mise en place des quartiers en essai clinique, audités lors de la mise en place des quartiers commerciaux, enfin, qui disposent de l'AMM, qui ont le statut d'AMM, réaudités de façon annuelle, et nous avons autant d'audits que d'industriels avec lesquels nous travaillons. Donc, dans les 3-4 derniers mois, je pense qu'on a été audité à peu près 10 fois entre toutes les activités. Et puis, petit point d'attention pour celles et ceux qui sont dans cette activité ou qui vont y rentrer, un petit conseil, augmentez la capacité de votre boîte mail, puisque je suis à peu près aujourd'hui à, on va dire, 200 à 300 mails par semaine, si je compte l'ensemble de l'activité Carticel. Alors, je vais aller peut-être un petit peu plus vite, parce que je vais me faire fâcher sur le temps. C'était cette diapo pour vous montrer globalement quelques exemples d'impact qui touchent au stockage, à la réception, à la décongélation, tout ça pour redire et redire encore et toujours que toutes ces activités doivent être parfaitement organisées en particulier pour ce qui est du stockage, de la réception et de la décongélation entre l'unité de thérapie cellulaire et la pharmacie, et bien sûr le service clinique qui va et qui attend le médicament pour greffer son patient. Alors, tout ça dans un contexte qui est très, encore une fois, très excitant. Vous avez parlé de révolution. Oui, on vit une véritable révolution. On espère que la révolution ne va pas s'arrêter là. Mais de facto, si elle ne s'arrête pas là, ça veut dire qu'il faudra être capable de mettre en place encore et probablement de nouvelles organisations. Puisque on a vu aujourd'hui qu'on travaille avec, en tout cas en France, des médicaments de type Carticel fabriqués par l'industrie pharmaceutique. Mais une fois qu'on a dit Carticel industriel, ils peuvent prendre eux-mêmes plusieurs formes, soit des Carticels utilisés en essai clinique, soit des Carticels utilisés ou qui ont été utilisés sous forme d'ATU, soit des Carticels qui disposent de l'AMM. Ces trois façons de voir les choses nécessitent elles-mêmes des organisations un petit peu différentes. Et puis, peut-être ne pas oublier qu'aujourd'hui, notre activité Carticel se limite grosso modo à 2 ou 3 indications thérapeutiques en hématologie, donc la leucémie aiguë lymphoblastique, le lymphome, vous en aurez des exemples tout au long de cette matinée. On commence les essais cliniques dans le myélome, mais vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'il y a un véritable raz-de-marée potentiel d'utilisation des Carticel dans plein d'autres indications thérapeutiques, en particulier les tumeurs solides, les maladies auto-immunes et dans la transplantation. Donc tout ceci est évidemment très excitant, ouvre des portes extrêmement importantes, mais enfin néanmoins, en termes d'organisation, aura probablement aussi un impact et des effets non négligeables. Il est clair que les tumeurs solides sont une des perspectives extrêmement importantes. Je vous ai juste sorti cette diapo pour vous montrer un petit peu les différents essais cliniques à l'heure actuelle menés avec l'utilisation de Carticel dans certaines tumeurs solides. Donc, il y en a dans le poumon, il y en a dans le pancréas, certains commencent dans le mélanome. Enfin, bon, on peut imaginer potentiellement un certain nombre d'indications thérapeutiques dans les tumeurs solides. Et puis, à la fois donc beaucoup de perspectives également dans les constructions elles-mêmes des carticelles. Donc, sans rentrer dans les détails, il y a à ce jour beaucoup de programmes précliniques n'utilisant plus forcément des carticelles, donc des cellules T modifiées, mais des CAR NK, des CAR macrophages, des CAR Treg, donc toute une série de CAR qui vont arriver à un moment ou à un autre sur d'autres types cellulaires, et puis vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle les CAR de troisième, puis les CAR de quatrième génération, qui là aussi vont représenter potentiellement des utilisations thérapeutiques différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Donc il est clair que le cartigral n'est pas encore atteint, et ça je dirais tant mieux, puisqu'il y a finalement une recherche extrêmement importante qui est, euh, qui est lancé dans beaucoup, beaucoup d'équipes dans le monde sur des process de fabrication des cars différents ou optimisés, sur la recherche de cars plus efficaces, sur la recherche de cars qui provoqueraient moins d'effets secondaires ou des effets secondaires qu'on pourrait contrôler de telle ou telle façon. C'est un peu les cars on-off, c'est-à-dire des cars qu'on injecte, qu'on peut inhiber, qu'on peut réactiver. La recherche également menée à l'heure actuelle sur ce qu'on appelle les cars allogéniques, c'est-à-dire les cars qui sont préparés à partir de donneurs sains et qu'on pourrait avoir à disposition finalement ce qu'on appelle les cars sur l'étagère, c'est-à-dire que vous allez les chercher très rapidement pour traiter vos patients. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je crois qu'il y a une session réservée aux cars allogéniques. Donc pour finir, je pense que vous avez compris qu'il y avait un certain nombre d'impacts organisationnels autour de cette activité, de la mise en place de cette activité de greffe de cellules CAR, qui en France, je pense que c'est important de le dire, représente une activité finalement tellement révolutionnaire, tellement nouvelle, mais tellement complexe, que le ministère de la Santé a fini par éditer deux décrets, dont vous avez forcément entendu parler, deux décrets qui organisent l'activité de greffe de carticelles en France et qui donnent donc l'autorisation ou pas à un certain nombre de centres pour pratiquer cette activité. Donc, je n'ai pas évidemment le chiffre exact aujourd'hui, mais bon, on considère qu'il y a à peu près 10, 12, 15 centres qui réalisent aujourd'hui une activité carticelle, centres qui doivent maintenant se déclarer et déposer un dossier de demande d'autorisation ou de certification ou de labellisation, on ne sait finalement pas quel terme sera retenu, mais peu importe, auprès des ARS pour pouvoir mettre en place l'activité CAR-T et traiter des patients avec ces médicaments de thérapie génique. Je vous remercie et puis je remercie surtout toutes celles et ceux sans qui tout cela ne serait pas possible. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Donc on va réserver les questions à la fin. On va enchaîner avec le professeur Stéphane Depille du Centre Léon Bérard de Lyon, qui va développer en fait les perspectives dans les tumeurs solides, puisque la table ronde numéro 2 sera plutôt consacrée à l'onco-hématologie et donc aux AMM, finalement, des CAR-T qui sont sur le marché actuellement. Donc là, on va enchaîner sur CAR-T-cell dans les tumeurs solides. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Ça va, du coup, vous m'entendez ? Parfait. Voilà, donc moi j'ai effectivement abordé le problème des tumeurs solides en présentant assez peu de données cliniques, puisqu'aujourd'hui se pose surtout un certain nombre de questions pour améliorer l'efficacité des CAR-T-cell dans les tumeurs solides. Donc je dessinerai les grands challenges associés au développement des CAR-T-cell dans les tumeurs solides et je vous présenterai les différentes perspectives et aspects technologiques associés. Alors, aujourd'hui, il y a eu effectivement de nombreux essais de CAR-T-cell dans les tumeurs solides avec de nombreuses cibles qui ont été envisagées. Alors, je ne vais pas détailler toutes ces cibles. Principalement des cibles classiques en tumeurs solides, EGFR et dérivés, la mésothéline et un certain nombre d'autres cibles avec beaucoup de petits essais principalement réalisés aux États-Unis et de plus en plus maintenant en Chine. Avec, ça bloque. Non, c'est champ magnétique. Avec juste un exemple d'une publication qui est recensée quelques résultats dans les tumeurs solides, où on trouve des résultats plus récents, mais globalement, quel que soit l'antigène utilisé pour l'administration systémique de CAR-T-cell, on retrouve au mieux quelques cas de réponse objective de durée transitoire, quelques stabilisations, et donc des résultats qui étaient clairement décevants et absolument non comparables avec les résultats spectaculaires observés dans certaines hémopathies malignes, en particulier le leucémie lymphoblastique et les lymphomes B à grandes cellules. Alors, cette situation s'explique de différentes manières. puisque on retrouve dans l'étude mensuelle un certain nombre de problématiques spécifiques, la difficulté à finalement définir des antigènes cibles spécifiques des tumeurs solides et exprimées de manière forte et homogène par les différentes cellules tumorales. Un micro-environnement particulier associé à une immunosuppression qui vient limiter l'activité des carticelles et également des difficultés de homing, d'accès au site tumoral et aux différents sites métastatiques de ces cellules T injectées. On peut dire que globalement, il est plus facile de faire entrer des carticelles dans de la moelle, peut-être un petit peu plus difficilement aussi dans des ganglions, mais beaucoup plus difficilement dans certains sites métastatiques. Et enfin, associé à ces différents éléments, l'ensemble des essais cliniques montre souvent un défaut de persistance, un défaut d'expansion et de persistance des carticelles injectées dans les tumeurs solides. Alors, pour ne pas rester sur ces résultats négatifs, un certain nombre d'approches sont aujourd'hui proposées pour essayer d'arriver avec de nouvelles générations de carticelles optimisées. Alors, en ce qui concerne le problème de l'antigène, un point essentiel est d'emblée de contrecarrer ce problème d'hétérogénéité d'expression des cibles. Et donc, une proposition est de travailler avec des carticelles dirigées contre contre deux ou plusieurs cibles. Alors, différentes approches sont proposées. Les approches initiales, c'est soit effectivement la co-transduction, dans lesquelles des cellules T sont modifiées avec deux vecteurs séparés qui contiennent chacun des carticelles. Et on a donc un produit mixte qui contient des cellules T avec une proportion différente de carticelles dirigées contre une cible A ou une cible B. La co-administration, c'est d'emblée l'injection de carticelles différents, chacun dirigé contre une cible. Et des approches un petit peu plus sophistiquées sont ce qu'on appelle les CAR tandem, dans lequel en fait le vecteur va coder pour un CAR bivalent qui va reconnaître deux antigènes membranaires de la cellule tumorale, ou des CAR dits bicistroniques dans lesquels le vecteur va d'emblée coder pour deux CAR différents exprimés sur la même cellule T. Donc ces différentes approches ont pour but de cibler de manière simultanée deux antigènes membranaires exprimés par les cellules tumorales. Alors, associé à ce problème d'hétérogénéité se trouve effectivement celui de la sélectivité. Il est, contrairement à des cibles spécifiques des tumeurs hématologiques, il est difficile de trouver des cibles spécifiques des tumeurs épithéliales, par exemple, avec donc ce problème de toxicité associé à des carticelles qui viendraient reconnaître et attaquer des cellules normales. Alors, une des propositions, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des gates logiques, qui est en fait basé sur le fait qu'une carticelle ne va s'activer qu'à condition qu'il ne reconnaît que sur la même cellule tumorale à la fois la cible A et la cible B. Donc, le processus d'activation est lié et conditionné par l'expression simultanée sur la même cellule tumorale de deux antigènes membranaires. Alors, c'est très joli sur le papier, difficile à trouver en pratique puisqu'il existe assez peu de cibles co-exprimées par la cellule tumorale et qui ne sont pas exprimées ensemble sur une cellule normale. Alors, il y a quelques articles récents qui suggèrent certaines possibilités de ciblage, ROR1 ou B7H3 dans un certain nombre de tumeurs, mais il y a effectivement encore un gros travail aujourd'hui pour essayer de définir des combinaisons de cibles pour développer ce type d'approche carticelle. Alors, pour également améliorer l'efficacité des carticelles dans les tumeurs solides, se sont développés ce qu'on appelle des cartés armés, modifiés, avec l'idée de pouvoir contrecarrer les phénomènes d'immunosuppression et les difficultés associées au micro-environnement tumoral. Pour le but d'augmenter l'activité, la capacité de prolifération et de réduire les phénomènes de mort cellulaire induite au niveau des cellules T. Donc ces cellules vont généralement de manière spécifique après activation sécréter un certain nombre de facteurs, soit des cytokines qui vont venir amplifier, renforcer les carticelles, ou un certain nombre de petites molécules, on le verra par la suite, qui peuvent être des fragments de checkpoints qui vont venir contrecarrer un certain nombre de phénomènes d'immunosuppression. Alors, ce qui est important, bien sûr, c'est de réguler cette activité, puisqu'on a des CAR suractifs, et donc il faut absolument que les CAR ne se soient activés qu'en présence d'une cible spécifique pour éviter les effets secondaires liés à une trop forte libération de ces substances. Alors le problème majeur en tumeur solide, c'est bien sûr l'immunosuppression. Alors on peut, et il y a un certain nombre d'essais en cours, c'est vrai aussi dans les hémopathies, mais il y a une vraie logique dans les tumeurs solides, à associer les CAR-T-cells avec des inhibiteurs de checkpoint de type anti-PD-1. Et une autre approche consiste d'emblée à utiliser des cellules T pour les CAR-T-cells qui n'expriment plus PD-1 ou alors qui expriment ce qu'on appelle des switch récepteurs, dans lesquels en fait on va combiner la partie extracellulaire de PD-1, la partie qui va reconnaître le ligand PD-L1, mais utiliser en fait cette reconnaissance du ligand pour induire non pas un signal inhibiteur, mais un signal activateur qui va passer ici par la partie CD28. Donc en fait, on va leurrer finalement l'environnement tumoral en activant le CAR-T-cell plutôt que de l'inhiber en reconnaissance avec les ligands PD-1. Alors une autre approche qui est également très séduisante, c'est d'utiliser des CAR-T-cells qui vont, après activation, produire des fragments d'anti-PD-1 avec des résultats pour l'instant précliniques qui sont tout à fait intéressants. Un facteur majeur, c'est également le TGF-bêta. Donc il y a des essais cliniques actuellement en phase 1 qui utilisent en fait des CAR-T-cells exprimant un récepteur dominant négatif du TGF-bêta. Et enfin, ce qui est proposé et qui a un vrai intérêt aujourd'hui sur un plan conceptuel, c'est l'utilisation de CAR-T-cells complexes qui vont combiner en fait un certain nombre de signaux qui vont convertir les signaux négatifs associés au micro-environnement tumoral en signaux positifs, activant spécifiquement les CAR-T-cells dans l'environnement tumoral. Alors un autre problème, effectivement, c'est celui du homing et de la difficulté d'accès de ces cellules T dans le micro-environnement tumoral. Alors un certain nombre de points sont aujourd'hui développés, un certain nombre d'approches, soit l'expression de certains récepteurs de chémokines qui peuvent être exprimés donc par la tumeur, avec la difficulté de choisir les récepteurs adéquats et ce qui vont dépendre de l'expression et de l'environnement également de la tumeur en termes de sécrétion de chémokines. Et deux approches qui sont aujourd'hui vraiment développées. La première, qui a un vrai rationnel scientifique, c'est la combinaison avec des virus oncolytiques, parce que les virus oncolytiques vont venir modifier effectivement l'environnement tumoral et induire une composante inflammatoire. Il y a un certain nombre de phénomènes qui vont venir attirer les cellules T et favoriser leur expansion dans un environnement moins immunosuppresseur. Et enfin, et je vous montrerai quelques résultats récents, l'administration intratumorale pour venir effectivement éviter ce problème de homing des cellules T et donc l'injection spécifique de ces CAR-T en intratumoral dans certaines tumeurs. Et on a cette année à l'ASCO effectivement eu des résultats positifs et très encourageants dans le mésothéliome avec des CAR-T-cells dirigés contre la mésothéline, avec l'injection intrapleurale de CAR-T-cells. Donc c'est une présentation de l'ASCO qui montrait, pour la première fois, on va dire, des réponses objectives à plus de 50% et quelques cas de réponses complètes associées à une expansion locale, mais également une diffusion de ces CAR-T-cells en systémique qui viennent éventuellement contrôler certains sites métastatiques. Donc il y a pas mal d'espoir sur cette administration loco-régional dans le cas du mésothéliome, parce qu'effectivement c'est dépendant de la pathologie en termes de faisabilité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une combinaison entre l'injection intratumorale de ces CAR et l'administration d'anti-PD-1. Donc effectivement, il y a toujours la possibilité de savoir quel est le rôle des PD-1. Bon, clairement, quand on regarde les résultats connus de manière historique avec les anti-PD-1 dans le mésothéliome et les résultats observés, il y a très probablement un effet associé à l'injection des CAR-T-cells, avec dans la cohorte des 16 patients traités par CAR-T-cells en intrapleural plus au moins 3 cycles d'anti-PD-1, une survie à un an de 80%, ce qui est quand même assez remarquable dans cette pathologie. Donc il y a vraiment des signes encourageants. Je dirais que c'est la première fois qu'on a vraiment des signes aussi encourageants dans une tumeur solide avec des CAR-T-cells. Alors, je voudrais aborder ce point. Alors, c'est celui effectivement des développements des CAR allogéniques. Alors, c'est vrai de manière un petit peu générale, mais dans les tumeurs solides, c'est particulièrement intéressant avec l'idée effectivement de disposer de CAR off the shelf, disponible immédiatement pour le patient, et surtout modifier d'emblée de manière à favoriser finalement les différentes fonctions de ces quarticelles, donc persistance, contrecarrer l'environnement immunosuppresseur, renforcer la puissance de ces quarts par des quarts armés qui vont venir libérer un certain nombre de cytokines et favoriser le homing. Et ce nombre de modifications potentielles, alors, du point de vue théorique, on peut modifier les quarts de nombreuses façons et les associer. Et c'est vrai que les approches allogéniques, en offrant le temps et un certain processus théorique de standardisation, pourraient s'avérer tout à fait appropriées pour les tumeurs solides. Alors, le problème des quarts allogéniques, c'est effectivement, outre les nombreux aspects séduisants sur le plan conceptuel, le premier point, c'est vraiment d'éviter, quand on est en situation d'alloractivité potentielle, d'éviter le risque de réaction du greffon contre hôte avec des quarts qui vont venir d'emblée reconnaître les tissus sains du receveur. Alors, différentes approches sont proposées. Alors, des approches assez anciennes sur le plan conceptuel qui étaient l'utilisation de les cellules T mémoire spécifiquement dirigées contre l'EBV et qui sont associées en lien avec un répertoire restreint des risques faibles de GVH, avec aujourd'hui toute une expérience des cellules T-EBV spécifiques dans les pathologies associées à l'EBV en post-transplantation. Et donc ces cellules pourraient être modifiées avec un CAR-T-cell, surtout en situation de HLA, avec machine HLA partielle. Alors une autre approche est d'utiliser des cellules non alpha-bêta. Alors on a des résultats aujourd'hui préliminaires avec des cellules NK et des CAR NK, surtout pour l'instant les hémopathies, mais ça pourrait également être utilisé dans les tumeurs solides. Et enfin, une approche qui est très développée par beaucoup de sociétés de biotechnologie, c'est le gene editing et le fait de venir déléter le TCR alpha-bêta pour éviter ces réactions de GVH. Alors la preuve de concept avait été faite en préclinique dès 2012 avec des méganucléases qui viennent d'emblée spécifiquement couper le TCR. Et ce qui est observé, c'est que malgré la disparition du TCR, les quarticelles générées étaient capables de s'activer et associer à une activité antitumorale. Alors, aujourd'hui, on peut dire que quand on regarde les données préliminaires dans les hémopathies malignes des quarticelles allogéniques, il semble possible de contrôler le risque de GVH, même si davantage d'études sont aujourd'hui demandées. Le problème de la persistance et d'éviter le rejet immédiat de ces cellules T reste plus difficile. Alors, il y a plusieurs possibilités. C'est soit effectivement, comme c'était proposé pour les lignes EBV, d'établir des banques avec un HLA matching partiel pour AB et HLA AB et DR. La question, c'est effectivement la taille de ces banques et les problèmes pratiques associés à la mise en place de banques dans les différentes populations. Une approche qui avait été proposée, c'était d'augmenter finalement l'immunosuppression pour éviter la réaction immunitaire du receveur contre les cellules du donneur. Il y a une approche qui a été proposée aujourd'hui qui est utilisée en clinique, qui est de faire un KO CD52 et de combiner le conditionnement avec de l'alemtuzumab.
On ne va pas trop développer parce que ça sera développé à la table ronde 3. On va conclure si vous voulez. Ah bon.
Et l'autre approche, c'est effectivement de faire des quarticelles invisibles par le système immunitaire. Si c'est développé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est de modifier suffisamment ces quarticelles pour les rendre invisibles par les cellules T et par les cellules NK. Donc je passe ça parce que ça va être... D'accord. Alors, pour revenir sur le problème des CAR, aujourd'hui, il y a deux grandes approches d'immunothérapie cellulaire qui peuvent être positionnées. Il y a effectivement les CAR avec quelque part cet intérêt d'avoir une approche supraphysiologique non dépendante de l'expression de molécules HLA sur la cellule tumorale, avec néanmoins cette difficulté à trouver des cibles spécifiques. Et les TCR ingénérés, où cette fois on utilise non pas finalement un dérivé d'anticorps, mais un TCR dirigé contre un épitope spécifique. Et on est dans une situation où effectivement on connaît de nombreux épitopes, un épitope et autres, qui sont plus spécifiques des différentes cellules tumorales. L'inconvénient, c'est que ça nécessite par contre l'expression de molécules HLA de classe 1 pour présenter ces différents épitopes. Et on sait que dans de nombreuses tumeurs solides, on note une diminution, une perte, soit complète, soit partielle, de certains allèles HLA. Donc ces deux approches sont probablement aujourd'hui intéressantes, coexistent en termes de développement et risquent probablement de coexister dans le temps en fonction des différentes pathologies et des différents contextes. Enfin, juste pour conclure, je voudrais juste vous montrer cette diapositive qui montre l'effervescence du développement de l'immunothérapie cellulaire avec les différentes approches aujourd'hui, à la fois CAR-T, TCR, autologue et allogénique, et de très très nombreuses sociétés de biotechnologie, groupes académiques dans le monde, avec encore une fois une prédominance US et Chine. La Chine est très très active aujourd'hui dans le domaine de l'immunothérapie cellulaire. Et donc des centaines d'essais en cours avec toutes ces différentes technologies. Donc je pense qu'on peut s'attendre dans les 10 ans à voir arriver des résultats nouveaux dans les tumeurs solides. Je voulais effectivement présenter le côté quand même difficile de l'approche, mais compte tenu du nombre aujourd'hui de perspectives et le nombre d'essais, je pense qu'on peut s'attendre à une véritable évolution dans le domaine des tumeurs solides et un impact réel, puisque aujourd'hui les CAR-T-cell dans les hémopathies finalement utilisent des relais et des modes de traitement qui ne sont pas très différents de ce qu'on pouvait faire dans les tumeurs solides. Ça change complètement les standards de traitement et la gestion des toxicités. Donc on est sur une stratégie qui effectivement pose aussi un certain nombre de problèmes pratiques dans leur utilisation dans les services d'oncologie. Voilà, je vous remercie. J'espère ne pas avoir été trop long.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était... une vue assez exhaustive donc, de ce qui est en train de se passer avec les CAR-T dans les tumeurs solides. On va proposer deux questions ou trois questions, puisqu'on est un petit peu en retard sur le timing. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, ma question sera peut-être, est-ce qu'il y a des essais en cours en France sur les CAR-T et tumeurs solides? Puisque la Chine est très présente, on aimerait bien aussi que ça se passe un peu en France.
Pas à ma connaissance. Avec des TCR en général, il y a des essais de certaines sociétés qui sont en phase 2. Il y a des réinjections des glandes éthyl modifiées, hein, mais de CAR-T-cell, je peux me tromper, mais je n'ai pas d'idée aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une vraie problématique d'accès aussi à la phase 1 en France pour l'immunothérapie cellulaire, parce que quand on est en contact avec ces sociétés qui développent ces approches, elles sont assez réservées. Mais elles sont assez réservées à réaliser ce type d'essais précoces sur le territoire national pour tout un tas de raisons liées aux approches réglementaires. Et je pense que c'est effectivement quelque chose sur lequel on doit évoluer pour pouvoir quand même essayer de bénéficier de ces nouvelles approches technologiques plus rapidement.
Oui, monsieur Larguero.
Je crois qu'il y a une ou deux pistes d'intérêt autour de l'utilisation des CAR-T tumeurs solides en France. Et puis, à la rigueur, on peut aussi lancer un appel. Hein, maintenant qu'on est très bien organisé sur le versant hémato, on le sera tout autant sur le versant tumeurs solides. Donc, on est là si besoin.
Toujours pas de questions? Oui, monsieur Guesquière.
Stéphane, est-ce que tu sais s'il y a des approches directes de CAR-T, par exemple en intrapéritonéal, ou comme ce qui se fait notamment avec les chip? Et notamment, là, on va devoir organiser aussi les équipes de chirurgie. Donc.
Alors, non, moi j'ai l'exemple de l'intra, enfin du mésothéliome, mais effectivement, on peut envisager des injections loco-régionales dès qu'elles sont possibles. Après, il faut savoir qu'il y a deux aspects. Il y a effectivement la faisabilité, il y a aussi le risque de toxicité lié à l'inflammation locale potentielle. Hein. Quand on regarde l'exemple du mésothéliome, les données sont rassurantes par rapport à la safety. Donc on pourrait effectivement envisager des approches d'utilisation loco-régionales dans d'autres pathologies. Je pense que les résultats quand même positifs obtenus dans le mésothéliome vont ouvrir également des portes pour tester dans d'autres pathologies et d'autres localisations en intratumorale.
Dans le glioblastome, il y a
des... Alors, le glioblastome, il y a eu des choses. Effectivement, il y a eu des cas d'injection également intracérébrale et quelques cas effectivement rapportés de réponse bon, transitoire, avec des protocoles qui sont lourds quand même, puisque ça nécessitait d'injectionner plusieurs fois de CAR-T-cell directement dans la tumeur et dans le LCR. Et donc il y a aussi tout un travail aujourd'hui pour essayer en parallèle de favoriser le homing des CAR-T-cell au niveau cérébral, puisque effectivement, même si les résultats qui ont été publiés dans New England sont encourageants, c'est quand même très difficile à mettre en place sur un plan pratique au niveau du glioblastome.
Oui, madame.
Merci. Non, moi je pose juste une question concernant les effets secondaires Est-ce que, parce que j'ai lu quand même qu'il y avait
alors des effets secondaires importants. On va développer ça dans ça la deuxième table ronde, puisque on va parler du relargage cytokinique lié à l'injection des CAR-T. Donc, on va passer... Encore une question.
C'était pas une question, c'était une précision. Pour dire que si les CAR-T-cells anti-CD19 marchent actuellement dans les hémopathies malignes, c'est pas parce qu'on a trouvé une cible spécifique des cellules leucémiques, puisque CD19, c'est absolument pas une cible spécifique, puisqu'elle est exprimée sur les cellules B normaux. Mais ce qui fait la différence, c'est que les patients peuvent vivre sans B normaux. C'est-à-dire que voilà, on peut détruire le compartiment normal de B et survivre, même si effectivement c'est un des premiers effets secondaires et que ça nécessite que les patients soient supplémentés en immunoglobulines.
On va développer tout ça pour la deuxième table ronde, puisqu'elle est consacrée aux leucémies aiguës lymphoblastiques et aux lymphomes. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup de vos interventions.